Newton, astronome et physicien, par Funk Brentano. Newton a réalisé la découverte scientifique la plus vaste, celle qui nécessita la puissance de pensée la plus étendue, en fixant la loi de la gravitation universelle, la loi qui, inflexiblement, régit les mondes dans l'immensité de l'univers. Et ses seuls travaux sur l'optique, sur la décomposition de la lumière, sur le calcul infinitésimal et le calcul différentiel suffirait en dehors même de la prodigieuse découverte de la gravitation à lui assurer une place éminente parmi les maîtres de la pensée. Le célèbre astronome Herschel dira de lui « De quelque côté que nous nous tournions, nous sommes forcés de nous incliner devant le génie de Newton. Nous ne pouvons lui refuser une vénération que personne n'a jamais obtenue dans le domaine des sciences. Tout ce qui a été fait avant lui ne peut être comparé qu'aux tentatives imparfaites de l'enfant. Quant aux travaux qui ont suivi, quelque prodigieux qu'ils soient, ils ne sauraient être mis en balance avec ceux qui sont consignés dans les principes. » Ce dernier mot résume le titre de son plus célèbre ouvrage et dont Lagrange a pu dire « C'est la plus haute production de l'esprit humain ». Et cependant, Newton ne parlait que modestement de ses travaux, prêt à répéter avec le sage antique « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». « Je ne suis, disait-il, qu'un enfant, occupé à ramasser quelques coquillages sur le bord de la mer, tandis que l'océan de la vérité s'étend devant moi. » Newton était de taille moyenne, plutôt petit. Il était de figure grave et agréable, sous une abondante chevelure. On était frappé de l'acuité de son regard. Très peu communicatif, sans cesse absorbé par ses méditations. Une de ses réponses en est demeurée célèbre. Comme on lui demandait comment il était parvenu à de si grandes découvertes, en y pensant toujours. Comme celle de nombreux mathématiciens, sa distraction est demeurée proverbiale. Il ne se maria jamais, peut-être ensuite d'une de ces inclinations enfantines qui, de certains hommes, occupent la vie entière quand elle n'a pu obtenir sa naturelle conclusion. Ses mœurs demeurèrent non seulement réservées, mais de la plus grande austérité, pénétrées d'une piété profonde. Isaac Newton naquit en Angleterre, à Woolsthorpe, dans le comté de Lincoln, le jour de Noël de l'année 1642, l'année même de la mort de Galilée. Aussi les amateurs de métempsychose ont-ils pu y trouver une confirmation de leur doctrine, car il leur devenait difficile de douter que l'âme de celui qui avait révélé les lois du mouvement, après avoir considéré le balancement d'une lampe sous le dôme de Pise, ne se fût pas logée dans le corps de celui qui devait découvrir les lois de la gravitation après avoir vu tomber une pomme d'un verre pommier en un verger du Lincolnshire. Comme son illustre devancier Kepler, Newton vint au monde malingre et chétif. On crut qu'il ne vivrait pas. Sa mère, veuve peu après la naissance de l'enfant, le confia à sa grand-mère, qui lui donna les premiers soins et l'envoya à l'école villageoise. À 12 ans, il fut mis à l'école de Grantham pour y apprendre le latin et les sciences. Il n'y fut qu'un très mauvais élève. Si l'Angleterre avait connu, au XVIIe siècle, le système scolaire que d'aucuns préconisent de nos jours pour la France, n'admettant dans les classes plus élevées que les bons sujets des classes inférieures, le plus beau génie qui est paru dans le monde n'aurait pas eu les moyens de se développer. Ce qui occupait l'enfant beaucoup plus que le latin et les sciences elles-mêmes, c'était la construction de petites mécaniques, ingénieuses et diverses, de petits moulins. En l'un d'eux, une souris jouait le rôle de meunier, faisant tourner une meule qui broyait les grains de blé, après quoi elle se nourrissait de la farine qu'elle avait moulue. Puis, c'était une horloge à eau, une ingénieuse clepsydre, l'eau s'écoulant à la mesure du temps, et un petit morceau de bois qui s'enfonçait avec le niveau d'eau, faisant tourner l'aiguille. Ou bien encore une voiturette à laquelle, du haut de son siège, le cocher à tour de bras donnait le mouvement. L'enfant montrait tant et tant de grandes dispositions pour le dessin que les murs de la chambre chez l'apothicaire de Grantham, le docteur Clark, étaient couverts des produits de son crayon ou de son pinceau. Et c'est chez le docteur Clark que le jeune Isaac connut la petite Miss Torrey et se prit pour elle d'un amour charmant qui ne devait pas s'éteindre. Quand Miss Torrey sera devenue Madame Vincent, il se changera en fidèle amitié. Mais voici que sur 15 ou 16 ans, l'enfant est saisi par le génie des mathématiques. Elles se révélèrent à lui lumineusement. Il ne passa pas de longs mois, comme tous les étudiants, à piocher les 13 livres d'Euclide. De sa seule intelligence, il voyait d'un coup d'œil et les donnait des problèmes et leurs solutions. Ainsi sauta-t-il de plein pied dans la géométrie de Descartes et les optiques de Kepler. Fontenelle rappelle la remarque du poète Lucain à propos du Nil, dont les anciens ne connaissaient pas la source. Il n'a pas été donné aux hommes de voir le Nil faible et naissant. Ils ne le connaissent que dans son ampleur. La science de Newton ne connut pas la débilité des origines. Dès l'abord, elle éclate en pleine maturité. Aussi bien, paraît-il, établi qu'à 24 ans, Newton avait déjà fait ses prodigieuses découvertes, autant en géométrie qu'en optique et en mécanique céleste. À 24 ans, il avait découvert la gravitation universelle. La jolie histoire de la pomme tombant de l'arbre chargé de fruits, et qui aurait révélé au jeune homme les lois de la pesanteur, et par suite celle de la gravitation, est malheureusement contestée. Elle nous a été transmise par Voltaire, qui la tenait de Madame Conduite, nièce de Newton. De nombreuses années, les Anglais ont tenu en vénération l'arbre célèbre, et quand il mena sa ruine, ils en firent un siège du bois pieusement recueilli. Sur ses 18 ans, Newton était entré à l'université de Cambridge, au Trinity College, qui conserve avec orgueil le pavillon à tourelles carrées où l'illustre savant travailla, médita et fit ses découvertes. L'histoire de la découverte de la gravitation par Newton s'accompagne d'un incident dramatique. On sait que la découverte de la gravitation universelle repose sur le phénomène de l'attraction des corps en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré des distances. Ayant conçu son système, l'illustre savant voulut en faire l'épreuve sur les éléments qu'il avait à portée de la main, s'il est ici permis de parler de la sorte. On veut dire le mouvement de la Lune gravitant autour de la Terre. Il calcula donc le poids de l'unité de masse de la Lune, et le comparant avec la distance qui nous en sépare, il trouva que ce poids dépassait d'un sixième celui qui eût convenu pour que les principes fixés par lui fussent exacts, c'est-à-dire que si sa théorie avait été juste, la Lune aurait dû nous tomber dessus. Rempli de tristesse, mais philosophe, il rangea son manuscrit dans une armoire où, de temps à autre, il ne laissait pas d'aller le contempler avec mélancolie. « C'était cependant bien beau, » se disait-il, et semblait si vrai. Les années, ces années 1666 à 1682, passèrent quand, certains jours du mois de juin 1682, se rendant à une séance de la Société royale des sciences dont il faisait partie, il y entendit parler des travaux d'un savant français nommé Picard, rectifiant, d'après de nouveaux calculs, la mesure d'un degré du méridien, par conséquent la longueur du rayon terrestre sur laquelle les rapports de la Terre avec la Lune avaient été établis. Newton rentra chez lui en proie à la plus vive agitation. Il reprit son manuscrit pour en refaire les calculs d'après les données nouvelles. Mais l'agitation de son esprit était telle, devant l'immensité des conséquences, qu'il ne pouvait travailler avec le calme nécessaire. Lui, Newton, serait-il vraiment l'auteur de la plus belle découverte scientifique que le monde aurait connue, ou bien n'aurait-il été que le jouet de vaines illusions? Il avait beau prendre et reprendre chiffres et formules, il se brouillait dans sa pensée. Il s'adressa à un ami, lui demandant de faire un travail qu'il se trouvait dans le moment incapable de faire lui-même. Quelle angoisse durant les heures d'attente, tandis que son collègue, le front penché sur les feuilles d'écriture, était plongé dans ses calculs. C'est peut-être le moment le plus dramatique de la longue et parfois si douloureuse histoire du génie humain. Plus dramatique encore que celui où Palissy jetait au feu les dernières chaises de son mobilier pour obtenir la cuisson, la victoire définitive. Victoire, en effet, joie et triomphe. Tout concordait à présent d'une manière parfaite. L'homme avait arraché à l'univers le secret, sinon de ses origines, du moins des modalités de son existence. Néanmoins, en son admirable conscience, Newton attendit 4 ans encore, travaillant sans relâche, reprenant sa théorie sous toutes les formes, l'appliquant à tous les faits connus, aux constellations les plus lointaines, pour s'assurer que rien ne venait y contredire, et ce ne fut qu'en 1686, la plus grande date, peut-être, dans l'histoire des sciences, qu'il fit paraître son ouvrage « Philosophiae Naturalis Principia Mathematica », principe mathématique de la philosophie naturelle. Il le présenta à la Société royale le 28 avril. Jusqu'alors, les tourbillons de Descartes paraissaient d'une vérité inébranlable. Newton a d'ailleurs eu le tort de clore son livre par des attaques inutiles et d'un goût douteux contre la doctrine de son grand devancier. Tel fut au reste le côté fâcheux de ce caractère de savant, que rehausse d'autre part tant de si belles qualités, désintéressement, modestie, bonté, simplicité. Newton était jaloux, envieux de ses rivaux. G. Whiston, qui lui succédera dans l'enseignement des sciences à Cambridge, et éditera son arithmétique universelle, écrira, en parlant du maître, « Newton souffrait du caractère le plus craintif, le plus soupçonneux qu'il se pût voir. Je n'aurais jamais osé publier, lui vivant, la réfutation que j'ai faite de sa chronologie, car tel qu'il était, j'aurais redouté qu'il ne me tuât. » Au cours de sa controverse fameuse avec Leibniz, concernant la priorité de leurs travaux respectifs sur le calcul infinitésimal, cette jalousie se montra sous le jour le plus regrettable. Il semble que Newton ait été en possession depuis assez longtemps des principes et des règles que firent connaître, en 1684, les Acta Eruditorum de Leibniz. La première édition des principes de Newton contient la note suivante. Il y a 10 ans qu'étant en commerce de lettres avec M. Leibniz, et lui ayant donné avis que j'avais trouvé une méthode pour poser les questions de maximis et minimis, des plus grands et des plus petits, et l'ayant caché sous des lettres conventionnelles, il me répondit qu'il avait découvert une méthode semblable et me communiqua cette méthode qui ne différait de la mienne que dans les termes et les signes. On doit déplorer que Newton ait fait disparaître cette note où il rendait justice à son rival des éditions ultérieures de son ouvrage. Regrettez aussi qu'il ait cru devoir faire attaquer Leibniz par ses disciples et ses amis. Et quand Leibniz, très noblement, déclara s'en rapporter à la loyauté de son confrère anglais, Newton, obstinément, garda le silence et porta le débat devant la Société royale, dont il était président et dont la reine ne pouvait qu'être entachée de partialité. Jusqu'après la mort de Leibniz, survenue en 1716, Newton s'acharnera contre ce grand esprit. La curiosité du savant s'attachait aux objets les plus divers, mais toujours par les méthodes scientifiques. C'est ainsi que Newton s'efforça de préciser la chronologie de l'histoire ancienne par les connaissances astronomiques de l'Antiquité. Voici un exemple. Nous savons, par les écrits des anciens Grecs, quelle était de leur temps la position de colure des équinoxes par rapport à certaines étoiles fixes. La colure est, comme on sait, le nom donné à 2 grands cercles de la sphère perpendiculaire à l'équateur et qui passent l'un par les points équinoxiaux, l'autre par les points solsticiaux. Nous connaissons donc la position du colure des équinoxes par rapport aux étoiles fixes au temps de Chiron le Centaure, c'est-à-dire au temps de l'expédition des Argonautes partant à la conquête de la Toison d'Or. Or, le mouvement en longitude de ces étoiles est d'un degré en 72 ans. On peut donc, connaissant leur position au temps des Argonautes, parvenir à déterminer la date de cette expédition fameuse et, par conséquent, celle de la guerre de Troie. Newton s'y employa et rapprocha ainsi de nous de 5 siècles l'époque de ces célèbres événements. On ne notera pas sans surprise que durant 2 années de sa vie, Newton avait alors 50 ans, ce grand génie tomba dans une démence complète au point qu'il fallut l'enfermer. Il recouvra la raison, mais la clarté de son génie en fut obscurcie. Il produisit encore des travaux intéressants où la flamme d'antan ne brillait cependant plus. Ses compatriotes le comblaient d'honneur et d'argent. Il fut nommé maître de la monnaie, anobli par la reine Anne, envoyé par l'université de Cambridge comme représentant au Parlement. Ici encore, il se distingua de la manière la plus recommandable durant les nombreuses années où il exerça son mandat, en ne prenant jamais la parole, sinon une seule fois, pour demander à un huissier de fermer une fenêtre à cause du courant d'air. Newton mourut à Londres, à Kensington, le 31 mars 1727, à l'âge de 85 ans. Il laissait à ses neveux une fortune qui représenterait de nos jours une valeur de 16 millions, et son tombeau fut érigé à Westminster parmi ceux de la plus haute aristocratie anglaise. Ainsi s'achève Newton, astronome et physicien, par Funk Brentano.